Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un épisode de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 16 août 2024. Mise en vigueur de la loi européenne de restauration de la nature. Qu'est-ce que cette loi pour restaurer la nature? À quelle occasion celle-ci a été rédigée? Qu'est-ce que cela signifie pour les États membres de l'Union européenne? Où se situe la France pour correspondre aux ambitions et objectifs de cette loi? Ce 16 août, un moment historique a pris place au Parlement européen. Le Parlement européen a adopté le règlement pour la restauration de la nature. Cette loi représente une avancée majeure pour la biodiversité en Europe, avec des dispositions juridiquement contraignantes. Les États doivent désormais mettre en place les premières actions tout en élaborant des plans nationaux pour restaurer l'état de conservation des écosystèmes et des espèces. La cible première, bien que beaucoup moins médiatisée, est de mobiliser de manière participative tous les acteurs du territoire à restaurer, dans le respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales, tels qu'ils figurent dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'objectif de la deuxième cible est donc d'engager des actions de restauration, en couvrant au moins 20% des zones terrestres et marines de l'Union européenne d'ici à 2030, puis, d'ici à 2050, d'étendre ces mesures à tous les écosystèmes dégradés. La priorité sera donnée aux écosystèmes qui présentent le plus grand potentiel de stockage de carbone, comme les tourbières, ainsi que le plus grand potentiel de prévention ou de réduction des effets des catastrophes naturelles, telles que les zones humides, pour les inondations. Cela comprend les milieux terrestres, comme marins, urbains, comme ruraux. Les objectifs visent aussi à inverser le déclin des populations de pollinisateurs d'ici à 2030, puis à croître leur population, ou encore à garantir un minimum de 10% de couverts arborés dans les villes européennes. Il concerne également la restauration d'au moins 25 000 km de cours d'eau à courant libre d'ici à 2030, celle des prairies sous-marines et les fonds marins, et l'amélioration de l'état de biodiversité dans les forêts et les espaces agricoles. C'est la principale évolution réglementaire de l'Europe sur la biodiversité depuis l'adoption des directives oiseaux et habitat faune flore, et c'est également un texte clé du pacte vert européen. Bon, depuis le début de cet épisode, je vous parle de restaurer des écosystèmes dégradés, mais comment est qualifié l'état d'un écosystème dans la catégorie dégradée? C'est une réelle question qui dépasse la sémantique car notre présence sur Terre et nos activités ont largement modifié les écosystèmes. À partir de quel moment considère-t-on que ces écosystèmes modifiés sont dégradés? Le terme « dégradé » est utilisé en opposition à un objectif de bon état écologique d'une espèce ou d'un habitat. Et qui dit bon état écologique dit résilience nécessaire pour assurer son maintien à long terme. En simplifié, un habitat ou une espèce est jaugé sur plusieurs critères déterminants, comme la surface et la qualité de l'habitat, ou le niveau de reproduction de l'espèce, afin de déterminer si oui ou non cette espèce ou habitat est résilient, et donc s'il saura se remettre d'une perturbation climatique ou directement humaine. L'adoption définitive, initialement prévue en fin d'année, a finalement été décidée ce 16 août dernier. L'existence de cette loi a été largement contestée tout le long de son écriture, son adoption a été reportée à plusieurs reprises, son contenu a été largement discuté, contesté, modifié à travers des compromis proposés en juin 2022. Par la Commission européenne, le texte est directement axé pour inverser le déclin de la biodiversité en Europe. En novembre 2023, les États membres avaient trouvé un compromis avec le Parlement européen et introduit plusieurs flexibilités, comme la possibilité de suspendre temporairement ce règlement en cas d'événements exceptionnels qui fragiliseraient la sécurité alimentaire ou la production agricole européenne. Tiens, tiens, on y vient. Le règlement européen sur la restauration de la nature avait été adopté le 27 février 2024 par le Parlement européen, après 2 ans de négociations, et devait entrer en vigueur en 2024. Mais le 25 mars, les ministres de l'environnement des 27 pays de l'UE, qui devaient apposer le tampon final, ont décidé de reporter le vote, faute de majorité, étant donné la forte opposition de plusieurs pays dans le contexte sensiblement délicat du milieu agricole. Le sujet a donc été effacé au dernier moment de l'ordre du jour. Et le 13 mai dernier, 11 ministres de l'Environnement de l'Union européenne ont ainsi appelé à voter, dès le prochain Conseil environnemental, le règlement de cette loi. Dans leur lettre, ils dénonçaient l'impasse dans laquelle s'engouffrait l'Europe, au détriment de l'avenir climatique et sociétal de cette dernière. Car pour rappel, ce règlement de la loi Restauration de la nature est un pilier du pacte vert européen et donc engage l'ensemble de l'Europe et de tous ses objectifs sur les 20 à 30 prochaines années. Concrètement, on peut se demander quels arguments sont parvenus à convaincre ses opposants de son écriture et de son adoption. Eh bien, principalement se pose là le financement de la restauration de la nature, qui est fondamental pour notre économie. Car chaque euro investi rapporte entre 8 et 38 euros de bénéfices. De plus, la restauration de la nature est cruciale pour notre résilience, alors que nous assistons à une multiplication des sécheresses, des incendies de forêt et des inondations en Europe. Qui donc désormais va s'atteler à faire appliquer cette loi ? La Cour de justice de l'Union européenne a pour mission d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. En France, il est possible d'avoir une évaluation de nos avancées en matière climatique. Oui, oui. Le Haut Conseil pour le Climat, HCC, est une instance consultative indépendante dont la mission consiste à évaluer l'action publique climatique. Et elle a publié, le 20 juin dernier, son 6e rapport annuel. Les principales conclusions sont les suivantes. La baisse des émissions de gaz à effet de serre brut, c'est-à-dire n'incluant pas l'effet des puits de carbone, de la France s'est enfin accélérée l'année dernière. On progresse. En 2023, elles ont diminué de 5,8% par rapport à 2022. Il s'agit du plus bas niveau observé depuis le début des inventaires. Pour autant, nous sommes encore bien loin des objectifs de l'accord de Paris, où les émissions brutes de la France doivent diminuer de 15 mégatonnes par an, jusqu'à la fin de la décennie. Cette baisse coïncide avec plusieurs facteurs, comme la reprise de la production nucléaire après l'arrêt d'une vingtaine de réacteurs en 2022, la diminution des activités industrielles, la réduction du cheptel bovin, vous savez, nos chers ruminants, en raison des difficultés rencontrées par le secteur, ou bien encore, si vous avez suivi un peu l'actualité avec la condamnation de l'État français pour inaction climatique, vous savez, la fameuse affaire du siècle. L'épisode Feuille de chou numéro 23 peut vous permettre de rattraper l'actu en question. L'alerte de ce rapport de HCC au Conseil pour le climat est mise sur la création en 2023 d'infrastructures qui risquent de l'enfermer dans son addiction aux énergies fossiles. en 2023 a ainsi été mis en service dans le port du Havre, un terminal flottant de stockage et de regasification destiné à l'importation du gaz naturel liquéfié depuis les États-Unis, le Qatar et l'Afrique. Le développement du gaz naturel liquéfié n'est pas cohérent donc avec les objectifs climatiques. Si on continue de parler bilan carbone et amélioration possible, HCC met l'accent sur plusieurs éléments qui peinent à évoluer positivement et que nous pourrions nous-mêmes faire avancer. La motorisation plus écologique des poids lourds, le développement des transports en commun, l'encouragement aux véhicules plus légers et plus petits, l'isolation des bâtiments, la mise en place d'une stratégie d'ampleur ou plan de régénération des forêts pour protéger ce fameux puits de carbone vital et pour finir, bien entendu, l'accompagnement des agriculteurs qui sont les plus impactés par le réchauffement climatique et devraient tendre vers une production plus résiliente et moins intensive. Cette dernière mesure vient en opposition à la réduction des normes environnementales qui protègent la résilience de ces écosystèmes et notamment la vie dans le sol, pilier fondamental du vivant. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'article 23 de la loi de la restauration de la nature y est consacré. Il y est notamment cité le programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres, afin d'aider les pays à parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 2030. Pour clôturer cette ébauche juridique, avant de se laisser aller dans un récit fantastique, il me semble important de résumer toutes ces mesures et orientations cruciales pour notre avenir en tant que vivants sur Terre à cette phrase figurant dans le règlement de la loi Restauration de la nature.
D'ici à 2050, la diversité biologique doit être valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples.
Tiens, l'heure est venue de tendre la feuille à une envolée poétique d'un de ces contes fantastiques dont les plus imaginatifs raffolent. Les oiseaux et l'arc-en-ciel.
Il y a très longtemps, avant que le monde soit monde, perruches, perroquets et cacatoès étaient noirs, gris ou blancs. Beaucoup avaient des plumes d'une seule couleur. Quelques-uns en avaient de deux couleurs. Plus rares étaient ceux qui avaient des plumes de trois couleurs. Perruches, perroquets et cacatoès étaient d'une grande beauté. Pourtant, un jour, ils eurent envie de devenir rouge, rose, orange, jaune, vert ou bleu. Les perruches se mirent à siffler.
Enveloppons-nous de feuilles et nous deviendrons vertes. Cette couleur est pleine de vie.
Les perroquets se mirent à jaser.
Frottons-nous plein de terre. Et nous deviendrons orange. Cette couleur est pleine de force.
Les cacatoès se mirent à jacasser.
Rappelons-nous des cailles de papillons et nous deviendrons multicolores. Rien n'est plus merveilleux.
Silencieux, un jeune perroquet réfléchissait.
Je sais.
Piaille-t-il soudain.
Je vais demander à mes amis les fleurs. Autrefois, elles étaient blanches. Elles me révéleront le secret de leur couleur.
Le jeune perroquet demanda au Warata :
Comment es-tu devenu rouge ?
C'est une sombre histoire. Je ne peux pas en parler,
lui répondit le Warata.
Et toi ? « Comment es-tu devenu jaune ?»
demanda-t-il au mimosa.
« C'est une vieille histoire. Je ne m'en souviens plus. »
lui répondit le mimosa. Tout triste, le jeune perroquet s'éloignait quand il entendit la douce voix de l'orchidée bleue.
« Moi, c'est l'arc-en-ciel qui m'a donné ma couleur. »
Le jeune perroquet remercia la fleur rentra à tire-d'aile et dévoila aux oiseaux le secret de l'orchidée. Les oiseaux se perchèrent à la cime des arbres pour guetter la venue de l'arc-en-ciel. Comme il tardait à se montrer, le grand cacatoès noir perdit patience et grogna.
« Des arbres très hauts poussent sur la montagne. Je vais me poster sur celui-ci qui dépasse tous les autres dès que je verrai l'arc-en-ciel. Je vous préviendrai. »
Mais le grand cacatoès noir s'endormit sur l'arbre qui dépassait tous les autres. Lorsque tout à coup, flic-floc, deux gouttes d'eau l'éclaboussèrent, le cacatoès sursauta, ouvrit les yeux et là, il vit l'arc-en-ciel qui dansait entre le soleil et la pluie.
L'arc-en-ciel ! L'arc-en-ciel !
S'écria-t-il en bondissant de joie. Et badaboum patatras, il tomba de l'arbre, fit la culbute jusqu'au pied de la montagne et se cogna le crâne contre une pierre. Assommé, il se rendormit aussitôt. Heureusement, Perruche, Perroquet et Cacatoès avaient entendu ses cris perçants. Sifflant, jasant et jacassant, ils s'envolèrent à la rencontre de l'arc-en-ciel. Les perruches arrivèrent les premières. Elles longèrent l'arc-en-ciel d'un bout à l'autre à toute vitesse. C'est ainsi qu'elles se couvrirent d'une multitude de couleurs éclatantes. Quand les cacatoès arrivèrent à leur tour, certains reçurent une pluie de rouge sur la tête, d'autres de rose sur la poitrine et d'autres encore de jaune de la crête à la queue. Un cacatoès, fier de sa nouvelle couleur jaune, vola jusqu'au nuage en faisant des pirouettes et son corps devint presque complètement blanc. L'arc-en-ciel fit pleuvoir le rouge, l'orange, le jaune, le vert et le bleu sur le jeune perroquet pour le féliciter d'avoir partagé le secret des couleurs avec tous les oiseaux. C'est depuis ce temps qu'il porte le nom de loriquet arc-en-ciel. Et le grand cacatoès noir, quand il se réveilla, l'arc-en-ciel n'était plus là. Mais en faisant la culbute jusqu'au pied de la montagne, il avait roulé sur des fleurs couleur de soleil. Mouillées par la pluie, elles ont déteint sur son plumage, qui est, depuis, marbré de jaune d'or.
S'imbiber d'un arc-en-ciel pour en revêtir les couleurs semble bien accessible à celui qui en connaît le secret. Et si la connaissance de ce monde vivant pouvait initier l'action de tout à chacun en faveur de sa préservation et de la nôtre par la même occasion? La tournée du climat et de la biodiversité est une exposition itinérante conçue par les scientifiques de Météo et Climat, l'asso de Société Météorologique de France, portant sur les enjeux du climat et de la biodiversité intrinsèquement liés. Elle cherche à expliquer les raisons du changement climatique en cours et de l'érosion de la biodiversité, réfléchir ensemble sur nos choix de société future, donner les clés pour comprendre, décider et agir. Au sein de l'exposition, le visiteur est guidé par un scientifique à qui on peut poser ses propres questions et échanger. Chaque visite est donc unique. Elle a déjà été visitée par 20 000 personnes dans 13 villes et continue à parcourir le territoire. En avril dernier, c'était à Lille que se tenait une session. La prochaine en date aura lieu à Longwy, dans l'est de la France, à l'occasion de l'ouverture des Assises nationales de la transition écologique. Tout au long de cette exposition conçue en bois, des jeux et manipulations permettent d'apprendre et de prendre part au débat. Entièrement gratuite, elle est destinée aux scolaires et au grand public.
Mais si vous n'êtes pas enclin à vous y rendre, d'autres expositions sur les mêmes sujets sont mises gratuitement à disposition. À commencer par l'exposition Les Super Espèces des Hauts-de-France, créée par la région elle-même, et à laquelle est associée une bande dessinée, un livret pédagogique et un quiz, afin que les naturalistes en herbe prennent du galon en toute légèreté. Ce monde coloré, en constante mutation, pourrait prendre un virage en faveur du vivant. Sommes-nous prêts à l'engager ? Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tournons la feuille à un passionné du vivant avec cette question d'actu cuisinée aux petits oignons.
Pain des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.